Bonsoir, bienvenue dans cette quatrième séance de mon parcours russo-américain. Aujourd'hui, je voulais naviguer entre deux positions, deux attitudes, en me centrant sur l'industrie et notamment le transfert des États-Unis à la Russie, non seulement des objets, des produits industriels, non seulement des manières de produire, mais également des usines elles-mêmes, transfert qui s'opère à la fin des années 20, au début des années 30, et qui va façonner durablement, et jusqu'à ce jour, on pourrait dire, l'industrie russe. Et ceci jusque dans les profondeurs de la partie asiatique de l'Union de l'époque et de la Fédération d'aujourd'hui. Je voudrais opposer deux notions dans mon propos d'aujourd'hui. Revenir d'une part sur la question de l'américanisme, c'est-à-dire d'un phénomène qui est d'ordre culturel, qui opère dans l'ordre des représentations, peut-être aussi dans l'ordre des pratiques artistiques, y compris les moins savantes, et l'américanisation, qui est un autre phénomène d'un ordre économique, politique, technique différent qui réside dans le transfert direct, parfois média, mais dans le transfert des modes de produire et, je dirais, de la culture technique et parfois même des dispositifs urbains de l'Amérique industrielle. Alors, je voudrais commencer en revenant sur la queue de la comète constructiviste, si je puis dire. J'ai parlé de Ginsburg et de sa problématique méthodologique, du constructivisme tirant du monde de l'industrie américaine et notamment du taylorisme et du fordisme ses méthodes de projet. C'était Ginsburg. Et j'ai évoqué au passage le travail de quelqu'un comme Leonidov qui est dans un registre qui est celui de l'abstraction, je dirais presque de la dématérialisation de l'architecture. Ici, le travail de Yakov Tchernikov, architecte de Leningrad, graphomane, c'est un architecte qui dessine fort bien et très vite et qui produira à la fin des années 20 et dans les années 30, non pas des centaines, mais des milliers de dessins. Vous voyez ici certains de ces dessins, de ces fantaisies architecturales qui sont en fait, et ceci est assez intéressant, dérivés du monde des machines. Tchernikov a parlé de ce qu'il appelle les contes de l'industrie, les récits de l'industrie, et il va imaginer une architecture qui est fondée, comme vous le voyez ici dans cet album de 1933, sur l'hypertrophie des formes des machines. Jusque dans la définition de cette architecture, il va s'interroger, essayer de théoriser des modes d'assemblage des formes qui sont des modes d'assemblage dérivés des machines. Assemblage par soudure, par emboutissage, par boulonnage, par agrafage d'éléments de bâtiment qui finissent par créer cette espèce de ménagerie fantastique de bâtiments. Dans certains cas, de bâtiments de bureaux, d'habitation, on ne sait trop, dans d'autres cas, de bâtiments qui sont en fait des morceaux d'usine. Tchernikov se mesure aussi à certains programmes des concours de cette époque, sans y participer. Le concours pour le monument à Christophe Colomb en 1929, sur lequel je reviendrai dans un moment, est un de ces concours importants. Je rappelle que les Russes avaient été très frustrés de ne pas avoir participé pour des raisons politiques, diplomatiques, au concours de 1922 pour le Chicago Tribune. Ils prennent leur revanche avec le concours de monument à Christophe Colomb à Saint-Domingue. Et vous voyez ici Tchernikov qui imagine une architecture faite de composants d'édifices industriels, les silos à blé qui restaient bien sagement alignés sur les photos que collectionnait Ginsburg, comme l'avait fait avant lui, Gropius et quelques autres. Ces silos sont en folie ici, sont enveloppés dans un enrubannement de toboggans, de rampes, et c'est donc une architecture extrêmement bavarde qu'il élabore. Parfois en s'accrochant simplement à un programme américain, parfois en imaginant à lui tout seul une skyline américaine. Ici, dans le même ouvrage de 1933, une composition architecturale faite de bâtiments multiples, il est clair que ni les Américains eux-mêmes dans le New York du début ou Chicago du début des années 30, ni même les exégètes européens de l'architecture américaine, les inventeurs des gratte-ciels en verre que sont Mies van der Rohe ou Le Corbusier, aucun d'entre eux n'imagine des choses pareilles, des assemblages de tours prismatiques qui semblent très curieusement anticipés sur les tours en épingle qui sont en train de crever la skyline de New York et qui font scandale. Il va jusqu'à imaginer dans un autre de ses ouvrages, Tchernikov publie au total trois livres importants sur l'architecture, dans un autre de ses ouvrages, vous voyez qu'il imagine littéralement des compositions qui pourraient se dresser à New York, maison géante à New York à gauche, qui ressemble à un projet déconstructiviste des années 90, et à droite, grand gratte-ciel, où la réflexion s'apparente plutôt à celle qui avait été proposée par Ladovsky sur la tectonique du gratte-ciel, le rejet des gratte-ciels de verre comme étant atectonique, et le rejet évidemment parallèle des gratte-ciels éclectiques. Enfin, Tchernikov s'intéresse à des groupements qui sont tout à fait intéressants. Vous voyez ici ces groupements qui ont plus, par certains aspects, qui prennent plus, par certains aspects, des accents suprématistes, notamment si l'on pense aux architectones de Malevich que je vous avais montré il y a quelques séances. Donc, vous voyez ici des formes de groupements ou d'assemblages, de faisceaux de formes verticales, enrubannés cette fois-ci d'antennes qui ressemblent plus à des architectones qu'à des compositions strictement constructivistes. Tchernikov se réclamant du constructivisme de stricte obédience et se voyant reprocher par les constructivistes de procéder à une sorte de dérive formaliste, de dérive fantastique, n'ayant rien à voir avec les objectifs et le programme productiviste, transformiste de l'avant-garde constructiviste. Quant au projet que l'on voit à droite, c'est un projet tout à fait intéressant. Je crois que l'image, cette fois-ci, est calée trop en haut et qu'elle gagnerait à être cadrée plus bas, parce qu'on perd le haut du dessin. Vous voyez dans cette image à droite une famille de gratte-ciel qui se met en marche, qui semble avancer vers un horizon radieux et qui a là aussi des formes carénées qui sont fort loin de celles que l'on pratique à New York dans cette période. Le concours de Christophe Colomb, j'en ai déjà parlé, seulement quelques projets parmi les 26 projets russes qui ont été rendus, et qui sont tous des projets, enfin, en tout cas pour ces deux-là, passablement fantastiques. Le projet de moulin à vent de Melnikov à gauche, un énorme bâtiment composé par deux prismes emboîtés l'un dans l'autre. Le prisme du haut recueille l'eau de pluie qui est mise en mouvement par les ailes, ces ailes de moulin, et qui tombe sur le sarcophage en cristal de Christophe Colomb. Melnikov avait étudié le sarcophage en cristal de Lénine à Moscou, dans le premier mausolée de Lénine, et il est assez piquant de le voir reprendre pour célébrer l'inventeur, le découvreur du Nouveau Monde, le thème qu'il avait utilisé à Moscou. En tout cas, cela montre l'investissement symbolique, fantastique, imaginatif des Russes dans ce programme. À droite, Ladovsky, le chef de file des rationalistes, met en œuvre son idée d'un gratte-ciel qui serait un gratte-ciel rationnel dans sa structure, mais expressif, dans lequel les modes d'empilement, les modes de distribution deviendraient la base du discours extérieur. Les conservateurs eux-mêmes, ou les éclectiques, comme Chioussef à gauche, participent à ce concours. Et il est assez piquant de voir dans le bâtiment de Chioussef, dans le projet de Chioussef à gauche, c'est un assez beau dessin au demeurant, une sorte de reprise conservatrice du thème de la tour et de la sphère que Leonidov avait utilisé pour son projet de diplôme de 1927 et que j'avais montré la semaine dernière. À droite, enfin, un projet important qui semble, lui, vouloir construire une référence avec l'architecture coloniale, l'architecture des fortifications espagnoles à Saint-Domingue. C'est le projet d'une équipe américaine dirigée par Harvey Corbett et dont le principal concepteur, le principal dessinateur est Vyacheslav Oltashevsky, dont je parlerai plus avant, qui est un architecte russe présent à New York. C'est donc une contribution russe ayant transité par New York et qui aura un des premiers prix. Le phare mémorial à Colomb, objet de ce concours, ne sera pas construit sous une forme extrêmement je dirais, atténuée avant, si je ne me trompe, les années 60. Donc ce concours sera infructueux. Je voudrais maintenant revenir à la question de l'américanisme culturel et à la question de au monde de la culture de masse, car les années 20 sont marquées non seulement par ces projets imaginatifs d'architectes, mais ils le sont aussi par l'invasion de la sphère de la culture de masse par l'Amérique, au music hall, au théâtre dont j'ai parlé, au cinéma bien entendu, et ceci intéresse, fascine et irrite au plus haut point les intellectuels radicaux, ceux du front de gauche, ceux du front gauche de l'art, du LIEF, dont Sergei Tretiakov, que vous voyez à gauche dans cette belle photo de Rodchenko. Tretiakov et les intellectuels du LIEF réclament dans leur revue des représentations des véritables Américains. Et Sergei Tretiakov, qui est un des militants pour la littérature factuelle, pour la factographie, une littérature qui prendrait comme héros non pas des amoureux souffrants, mais l'acier, le fer, le béton, Pickford va plus loin, réclame non seulement que les véritables Américains soient présents, mais réclame que le cinéma change de perspective. Je cite « Le cinéma rêve de Pickfordiser ». À quoi fait-il allusion ? Il fait allusion à l'extraordinaire popularité de la comédienne américaine Mary Pickford aux États-Unis. Donc le cinéma rêve de Pickfordiser la vie quotidienne des ouvriers au lieu de la Fordiser. Et donc c'est le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui, Ford ou Pickford. La culture de masse soviétique se tourne donc vers les productions américaines, et ceci de façon massive. Je n'ai pas sous les yeux les chiffres de la distribution cinématographique en Russie, mais le marché est saturé de films américains, bien plus que des films allemands plus proches, et le tout, je le rappelle, en l'absence de relations diplomatiques jusqu'en 1933. Le directeur d'une société dénommée Am Kino, pour ciné américain, société soviétique basée à New York, écrit dans le New York Times en 1926, je cite, « L'Amérique représente pour les Russes un pays d'une efficacité incroyable et que, dans son désir d'imiter ses idées, le Russe est avide de chaque morceau de la vie dans ce pays. » Il y a donc un marché de l'américanisme cinématographique et la popularité de Pickford, de Douglas Fairbanks Jr. Tous les deux font une tournée triomphale à Moscou en 1926. La popularité, évidemment, de Charlie Chaplin est considérable. Le film que vous voyez ici, de Komarov, n'est pas une merveille de l'histoire du cinéma, mais c'est un film qui met en scène les relations imaginaires d'un héros qui se vit en concurrence avec Douglas Fairbanks pour obtenir les faveurs de Mary Pickford. Et l'ensemble se continue sur les pages des imprimés. Les aventures de Tarzan, par exemple, se trouvent dans le moindre kiosque de gare de ce moment. Alors, Tretiakov, dont je viens de parler, est très irrité par tout cela et il lance une croisade pour le militant standardisé, écrit-il, dénonçant ceux qui peignent, je cite, « les souffrances des Werthers prolétariens en dehors du temps de travail ». Tretiakov affirme son soutien pour ce qu'il appelle, je cite à nouveau, « l'aile gauche des travailleurs de l'art qui transforme celui-ci en une usine », transformer l'art en usine, c'est le programme du prolète culte, produisant les outils précis de l'impératif révolutionnaire en une élaboration de l'homme américanisé dans un pays électrifié. C'est donc un thème extrêmement puissant dans toute la production culturelle et qui irrigue une production cinématographique soviétique autochtone et plus créative que ce film de Komarov. Je fais allusion, par exemple, au film de Kuleshov, « Les aventures extraordinaires » de Mr. West au pays des bolcheviks, les aventures d'un businessman, comme on le dit dans le russe de l'époque américain, pourchassé par les contre-révolutionnaires et sauvé par des rouges qui se révèlent au fond très sympathiques. Donc c'est un magnifique film, on le trouve sur YouTube très facilement. Je pourrais parler aussi de la version cinématographique des aventures de Messmend. C'est un roman Messmend ou Jim Dollar, c'est un roman de Marietta Chaguignan, ici publié en feuilleton avec de formidables collages de Rodchenko, et qui est tourné au cinéma par Boris Barnett. Enfin, et je n'en dirai pas beaucoup sur ce thème, c'est le moment où les orchestres de jazz américains, passant par Berlin, comme vous le voyez ici, l'orchestre de Sam Wooding, arrive à Moscou et ont un très grand succès dans les music halls soviétiques. Donc il y a la pickfordisation dont parle Tretiakov, que flétrit Tretiakov, elle est extrêmement présente, elle est extrêmement virulente, et ceci se prolongera jusqu'au début des années 30. Dans le même temps, la situation, je dirais, infrastructurelle de la Russie est en train de changer, avec plusieurs grands programmes de modernisation. Le premier est le projet d'électrification de la Russie, le plan dit Goelro, qui est lancé au début des années 20. C'est encore un plan qui est lancé sous la direction de Lénine, encore vivant et lucide à l'époque. C'est un programme qui marque une rupture avec la révolution et la guerre civile, dans la mesure où les soviétiques passent des contrats avec des entreprises occidentales, britanniques, allemandes, mais aussi américaines. Et c'est cette invitation faite à l'Amérique dans le programme d'électrification prend des dimensions monumentales, j'en parlerai tout à l'heure, mais prend aussi des dimensions concrètes, des dimensions presque fantasmatiques, concrètes en matière d'idées, presque fantasmatiques. La première grande centrale réalisée pour alimenter Leningrad, la centrale du Volkhov, est présentée par un de ses ingénieurs comme un morceau d'Amérique. Vous voyez ici, écrit un de ses auteurs nommé Voevodin dans la revue Electrificatia, l'électrification. Vous voyez ici, écrit-il devant cette centrale, l'Amérique actuelle. Bruit, tonnerre, tout est Amérique. En un mot, ce n'est pas une démarche russe, mais un tempo américain. En termes de tempo, de rythme, et revient est un des fétiches rhétoriques du discours sur l'Amérique. Dans ce plan adopté en 1920, où l'on retrouve à la fois les efforts politiques modernisateurs de Lénine et ceux de certains bolcheviques ingénieurs passés par l'Allemagne avant 1914, ce plan passe par toute une série d'étapes dans lesquelles le modèle américain, notamment des grands projets d'électrification à l'échelle régionale, ne cesse d'être discuté, notamment par les instances les plus officielles. Dans cette phase, des Américains sont présents en Russie. C'est tout d'abord, pendant la guerre civile et juste après, ce sont tout d'abord des travailleurs humanitaires, dirait-on aujourd'hui, l'American Relief Administration, qui lutte contre la famine dans le sillage de la guerre civile et qui envoie aussi des livres scientifiques américains en Russie. Il y a aussi quelques ingénieurs qui sont des survivants de la période pré-révolutionnaire et de la guerre, notamment ceux qui travaillent dans les chemins de fer et qui sont conservés, mais il y a aussi des entreprises utopiques tout à fait remarquables. La plus intéressante, c'est celle qui a lieu dans la région du Kouzbass, ce nouveau bassin sidérurgique qui est censé faire pièce à l'est au Donbass en ukrainien, dont on entend beaucoup parler ces jours-ci. En 1923, 400 socialistes américains se rendent désespérés de faire la révolution aux États-Unis, se rendent dans le Kouzbass, geste un peu symétrique de celui des Russes qui étaient partis au XIXe siècle créer des communes utopiques aux États-Unis. Il y en avait eu beaucoup. Et sous les directions de Sam Rutgers, l'American Industrial Colony va mettre en service des fabriques et des mines, va construire des fours, des scieries, et va relancer la production de cette région, et l'a développée, jusqu'en 1927. Donc voilà ici une image d'une fabrique chimique à Kemerovo, qui est restée un grand centre chimique russe jusqu'à ce jour, fabrication de pneus et autres produits chimiques. Et ici, vous voyez une image de l'usine sidérurgique de Kemerovo. Enfin, il y a des personnages extrêmement pittoresques, est très important dans la chronique des relations américaines jusqu'aux années 80, peut-être, que l'on rencontre à Moscou. Le plus intéressant, c'est Armand Hammer, qui plus tard sera le propriétaire d'une grande entreprise de pétrole, Occidental Petroleum, dont le père Julius était un communiste américain. Arrivé, si je puis dire, dans les jupes de son père Hammer, montra dès le début des années 20 des entreprises mixtes américano-russes, et notamment une célèbre usine de crayons dont les produits deviendront proverbiaux. On parlera des gamari, qui seront les crayons produits par cette fabrique dont vous voyez ici les publicités. Sur un plan beaucoup plus ample, précisément celui du pétrole, les bolcheviks lancent dès 1923 des sociétés mixtes avec l'étranger qui vont permettre notamment de relancer la production de pétrole à bas coût, fondamentale pour l'économie et le commerce extérieur de la Russie. La modernisation des systèmes de forage, la création de pipelines vers la mer Noire, les raffineries vont être créées sur le modèle américain, dans le même temps que les linéaments de l'industrie sidérurgique vont l'être aussi. Le fleuron du plan Goelro, dans cette période, le plus grand projet, le projet le plus célébré, c'est le barrage sur le Dniepr, qui est construit à la fin des années 20. Vous le voyez ici. Il est tout à fait remarquable de voir que ce barrage a été achevé grâce à la présence et la participation, au moyen d'un contrat très solennel, de la General Electric américaine et du colonel Hugh Cooper, qui avait été le responsable du projet du Wilson Dam. J'en ai parlé parce que c'est autour de ce projet, de ce barrage, que Henry Ford avait imaginé de créer une ville linéaire au début des années 20. Voici le Wilson Dam et le colonel Cooper, qui est vu ici en train de signer un contrat, le voici à droite, en train de signer avec Saul Brown, le directeur de la société de commerce américano-russe, de signer un contrat pour la construction de ce barrage. Ce barrage et l'usine électrique qui l'accompagne, vous en voyez les turbines à droite, rapprochées des turbines du Wilson Dam, est un projet absolument central dans la propagande communiste de l'époque. Il est vrai que c'est le barrage le plus long du monde, 720 mètres de longueur, 51 mètres de hauteur. Le premier projet avait été engagé par Siemens, et il est intéressant de voir que ce barrage, qui va être célébré par les photographes, qui va être au centre de multiples récits littéraires également et cinématographiques, que ce barrage va échapper aux Allemands. J'y vois franchement une très claire illustration de cette montée en puissance de la relation avec l'Amérique au détriment de l'Allemagne dans cette période. Cooper va devenir un véritable héros populaire. Il sera même admis à la table de Staline avant d'être oublié et refoulé. La présence des Américains sur ces chantiers, sur celui du Dniepr, sur les chantiers des villes nouvelles et des grands combinats, va d'ailleurs être un thème puissant de la littérature dans cette période. À la fin des années 20, les spécialistes américains, qui sont encore moins nombreux que les Allemands, sont malgré tout très diffusés sur le territoire, pendant que l'idéalisation de la ville américaine se diffuse. Un cas tout à fait extraordinaire, c'est celui de Novosibirsk. La nouvelle... est-ce qu'on peut reformater l'image pour qu'elle soit un peu plus petite? Parce qu'on perd le haut de certains documents. Je ne sais pas si c'est possible. Ou si je prêche dans le désert, ou dans la steppe. En tout cas, ici, vous voyez une page de journal d'un journal sibérien qui nous présente Novosibirsk comme le New York de la Sibérie. Ailleurs, la ville est présente et surnommée, dans d'autres publications, elle est surnommée Sibchik ou Sibirsky Chicago. Donc le Chicago de l'Amérique, ce qui n'est pas complètement absurde, car son rythme de croissance au cours des années 20, elle remplace Tomsk comme capitale de la Sibérie, son rythme de croissance est sans doute comparable à celui qu'avait connu Chicago après le grand feu, après l'incendie de 1871. Alors, revenons à la production elle-même. Et je regrette que le haut de ces images ait disparu, mais vous pouvez lire quand même. Donc la popularité de Ford ne cesse de croître pendant cette période en Russie, la publication de ses œuvres, dont j'ai déjà parlé, la publication de très nombreux ouvrages sur Ford. Ford est considéré, finalement, admiré au même titre que les Russes avaient admiré Benjamin Franklin, Robert Fulton ou Edison. Sa popularité est considérable jusqu'au fond des campagnes. Y a-t-il des portraits de Ford dans le coin rouge à côté des icônes et des portraits de Lénine ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, des livres très nombreux lui sont consacrés, traduits de l'allemand, par exemple, ce livre de Henkel, Henry Ford, simplement, à gauche, ou des récits d'expériences sur l'établi chez Ford, le récit d'un ouvrier qui avait été à Detroit, ce qui n'est pas complètement une rareté, puisque un des directeurs de Ford visitant une usine russe en 1926 rencontrera d'anciens collègues. Alors, un Américain remarquera à propos de Ford en Russie en 1940, je cite, « Si Lénine est aujourd'hui le dieu de la Russie, Ford est son Saint-Pierre. » Et devant un représentant de la Chambre de commerce, devant le président de la Chambre de commerce américaine, Staline émettra même, je crois, en 1929, un vœu assez inattendu, qui est le suivant, « Que Dieu le préserve ». Donc Ford est véritablement le grand héros de la décennie, à côté de Lénine, devient une sorte d'incarnation de l'oncle Sam. Dans le même temps, l'apport de Ford se concentre dans un produit particulier, un équipement décisif pour l'agriculture soviétique, qui est le tracteur Fordson, ou Fordson, produit par Ford depuis 1915, et qui est introduit très rapidement dans les années 20 en Russie. Il est produit à partir de 1923, et ici je vais vous parler aujourd'hui pas mal de tracteurs, mais cet équipement a un sens tout à fait important, on va le voir. En 1923, le Conseil de travail et de la défense décide, de la Russie soviétique, décide de créer une industrie du tracteur. Et donc la production de ces tracteurs Fordson est lancée dans les anciennes usines Putilov, les usines du Putilov rouge à Leningrad, et vous voyez à gauche un de ces tracteurs. Le seul problème, c'est que si l'objet est véritablement reproduit, de façon à peu près crédible, en tout cas visuellement et structurellement, le mode de production industriel n'est pas reproduit dans cette phase. Les Russes fabriquent à la main quelques unités, quelques dizaines peut-être de tracteurs tous les mois, en ne maîtrisant pas du tout les techniques de la métallurgie. Et donc, il va très rapidement devenir indispensable de passer à un autre registre qui est celui de la production en masse. Mais ceci ne s'opérera pas sans que le tracteur ait à son tour été héroïsé et célébré. Ici, on le voit avec cette affiche de propagande pour la collectivisation à gauche. Pas de place pour les pop et les coulacs, mais toute la place au tracteur. Et vous voyez les Fordson ici. Ici, une affiche et un photogramme de la ligne générale d'Eisenstein, dont l'intrigue, c'est essentiellement la bataille d'une paysanne pour obtenir un tracteur et collectiviser son village. Eh bien, c'est le tracteur Ford, le Fordson, qui est au centre de cette opération. À la fin des années 20, les trois quarts du parc des tracteurs russes seront américains et en très grande partie construits par Ford. Pendant que d'autres entreprises de la sphère agricole, je pense à McCormick, construisent par exemple à Moscou des boulangeries industrielles. Donc cette présence américaine est forte mais inorganisée. Elle va changer de sens à partir de la création d'une société dénommée Amtorg. C'est le condensé du terme commerce américain. Voici les bureaux qu'elle a occupés à partir de la fin des années 20 à New York. Cette société est créée par une série d'actionnaires initiaux, la société de Arm & Hammer, dont j'ai déjà parlé, et deux ou trois sociétés qui existaient auparavant. Elle est créée en 1924, elle fonctionnera jusqu'à la fin de l'Union soviétique, et elle sera pendant une très grande partie des années 20 et des années 30, de 24 à 33, pendant 9 ans, la seule représentation massive des Russes aux États-Unis est donc évidemment un nid d'espions, ce qui provoquera toute une série de scandales. Mais dans le même temps, elle aura une activité extrêmement concrète en matière de transfert de technologie, comme on dirait aujourd'hui. J'en veux pour preuve son abondante production imprimée. Vous voyez à gauche la revue mensuelle qu'elle publie, Technique et Industrie américaine. La page de titre a été dessiné par Oltarzewski, architecte dont j'ai déjà parlé et sur lequel je vais revenir. C'est une revue qui diffuse tous les mois à l'attention des directeurs d'usines ou des cadres de l'industrie soviétique des reportages sur tous les aspects de la production américaine. Et à droite, vous voyez l'un des exemplaires de l'annuel, de la publication annuelle qui diffuse des publicités et de la documentation technique sur la production américaine. Voilà une double page de ce manuel de la technique et de l'industrie américaine, publicité pour Ford en 1932, mais il y a 1000 pages. Et en gros, ce catalogue est une sorte de catalogue de la redoute de ce que les directeurs d'entreprises russes peuvent commander pour s'équiper. Donc, Amtorg, si vous voulez, on voit ici très clairement Amtorg participer du transfert, pas simplement des chaînes technologiques principales, mais de développer toute une série de relations contractuelles. Amtorg négocie les contrats les plus variés, achat de machines d'imprimerie, de tracteurs, évidemment, d'usines et même achat de moutons. Organise aussi les voyages des techniciens russes en Amérique. Il y en a 66 qui font le voyage en 26, il y en a 575 en 1930, et il y en aura quelques centaines chaque année pendant les années 30. Le principal responsable d'Amtorg dans cette période s'appelle Saul Braun. On l'a vu sur la photo, on l'a vu participer à la signature du contrat avec le colonel Hugh Cooper. C'est un économiste et c'est à nouveau un de ses agents de la relation russo-américaine en compagnie de ceux que j'ai déjà nommés. C'est un économiste qui a passé un doctorat d'économie à Zurich et qui est un spécialiste du commerce extérieur. C'est un excellent négociateur. Un de ses successeurs, Bogdanov, se fera l'avocat de rapports constants et systématiques avec l'ingénierie américaine et de la création de bases de production russes permanentes aux États-Unis pour y former la main-d'œuvre nécessaire. C'est ce que nous allons voir apparaître. Ici, je reviens aux pages de la revue, revue Technique et Industrie américaine en 1929. On trouve dans les pages de cette revue un article sur la construction de l'Amérique et l'architecte par Oltarzhevski. Cet article est important parce que c'est un article, ça n'est pas pour la première fois la traduction d'un article allemand. Vous vous souvenez des traductions de Richard Neutra, par exemple. C'est l'expérience directe d'un Russe qui n'est pas venu en Amérique pour faire un voyage d'études, mais qui s'est installé à New York en 1924 et qui y restera jusqu'en 1934. Oltarzhevski est une des figures centrales de la relation russo-américaine dans l'architecture, et il commence à se faire connaître, en tout cas par les lecteurs de cette revue, en discutant des formes de la division du travail aux États-Unis, en présentant, vous le voyez ici, mais il manque le haut de l'image, ici le cartouche contenait le mot architecte. Donc il montre comment l'organisation de la profession s'est transformée avec les grandes agences et comment la division du travail est devenue la règle. Oltarzhevski est un architecte qui a été formé à Moscou et qui a travaillé dès avant 1914. Il a notamment été l'un des auteurs de cet ensemble de bâtiments d'assurance, qui est un ensemble assez remarquable par ses substructures en béton armé, par ses grandes fenêtres. C'est un des édifices les plus avancés, les plus innovants dans sa conception urbaine, dans son plan pittoresque de la Moscou d'avant 14. Il participe à la guerre civile dans les rangs de l'armée rouge et part, après avoir participé à l'exposition agricole de 1923 à Moscou en 1924. Il en reviendra en 1934 et aura un destin extrêmement aventureux. Mon hypothèse, et j'y reviendrai sans doute, c'est qu'il avait des liens, comme beaucoup des gens de l'Amtorg, avec les services de sécurité. Et que, comme beaucoup, je dirais la plupart des espions russes, il avait une couverture légitime. Dans son cas, c'était celle d'un architecte qui travaillait et qui a fait beaucoup de projets et quelques bâtiments à New York dans cette période. Donc c'est quelqu'un, un architecte dont le travail me semble extrêmement révélateur et dont les archives à Moscou, les archives du musée d'architecture, ont conservé beaucoup de documents. Vous voyez ici une maison réalisée pour une émigrée russe, une russe blanche. C'est aussi un indice quant à son engagement dans les services de sécurité que de le voir fréquenter sans aucun problème l'émigration. En tout cas, il fréquente ici et il obtient des commandes de Russes liés au milieu de la mode à New York. Il travaille aussi dans une agence importante qui est l'agence de Helmley & Corbett, qui sera engagée par la suite dans le chantier du Rockefeller Center. Et vous voyez ici deux très beaux dessins retrouvés dans les archives d'Oltarzewski, qui était un excellent rendeur et qui est donc été utilisé par ses employeurs ou ses partenaires. Le projet d'un gratte-ciel à New York qui ne sera pas réalisé, qui est une très bonne application des principes du règlement de zoning de 1916, très proche des dessins de Hugh Ferris. Et à droite, l'hypothèse d'une occupation extrêmement dense d'un îlot, aussi dans le cadre du règlement de 1919. En travaillant sur la figure d'Oltarzewski, un mystère s'est éclairci. Je n'avais jamais compris pourquoi un Russe habitant à New York avait rendu un projet au concours de 1930 pour l'aménagement de la Porte Maillot à Paris, projet, comme vous le voyez, assez hardi, de grands bâtiments en forme de serre-livre pinçant l'avenue de la Grande Armée, comme beaucoup d'autres dans ce concours. En fait, c'est Corbett, architecte très connu à Paris, qui avait été invité et qui avait donné le projet à Oltarzewski. Donc, des centaines de projets se trouvent dans les archives. On voit que cet architecte s'efforce de survivre et dans les conditions économiques réelles de la vie américaine. Et il construira quelques édifices assez modestes. Il dérivera aussi, après, lorsque la crise aura définitivement tari les commandes, il dérivera aussi vers une vision plus fantastique de l'Amérique et se mettra lui aussi à imaginer des ensembles théoriques de bâtiments à gradins, de chantiers interrompus dans leur construction. Vous en voyez un ici. Et il produira un très bel ouvrage de planches sur la Babylone contemporaine qu'est New York. Le frontispice vous montre le Rockefeller Center qui était en construction à l'époque. À droite, une vue tronquée du pont de Brooklyn. Oltarzewski va donc valoriser d'abord à New York sa connaissance de la ville avant, comme on le verra, de la valoriser à Moscou. Revenons à l'économie et au plan quinquennal qui est donc lancé en 1928 et dans la mise en œuvre duquel l'industrie américaine va jouer un rôle tout à fait décisif. En fait, on pourrait dire, comme cela a été noté par un des premiers historiens de l'intelligentsia technique russe, Kendall Bales, que le premier plan quinquennal doit beaucoup plus, dans la configuration de son infrastructure, ce qui nous intéresse puisque cela implique des bâtiments, qu'il doit beaucoup plus au modèle américain qui est fondé sur le développement des mines, de la métallurgie et de la construction mécanique qu'au modèle allemand qui est fondé sur la chimie et l'électrotechnique. Ça avait été le cas pour le premier plan, Goelreau, c'était l'électrotechnique au pouvoir, pour des raisons qui sont aussi des raisons militaires, dont je dirai deux mots. Le plan quinquennal privilégie ces autres branches de l'industrie. Les échanges économiques avec l'Amérique s'étaient développés tout au long des années 20, en dépit des accords privilégiés qu'avaient la Russie et l'Allemagne. Je vous rappelle, c'est la grande histoire, le pacte de Rapallo, le pacte de la Russie et de l'Allemagne après la guerre, qui avait lancé une coopération industrielle et militaire. En dépit donc de ces accords, plus de la moitié des accords signés à la fin des années 20 le sont avec les Américains, et ce chiffre passera rapidement à 2/3. Les Soviétiques, utilisant tous les moyens pour payer ces contrats, et ces moyens, c'est ceux qui sont les plus, je dirais, les plus légers, les moins toxiques, c'est-à-dire la vente des tableaux de certains tableaux de l'Ermitage ou la vente de l'argenterie des palais tsaristes, qui se fera dans plusieurs boutiques à Paris ou à New York, mais la véritable ressource utilisée par les Soviétiques pour payer ces usines, ces machines et ces ingénieurs, c'est le grain ukrainien. Et donc la facture de ce dont je vais vous parler maintenant, ce sont des millions de morts de faim en Ukraine. Donc il ne faut pas l'oublier quand on voit l'énergie développée pour ces projets. Alors cela commence par des accords avec Ford, et je regrette que le haut de ma diapo manque. Je crois qu'il n'y a personne est en état de résoudre ce problème. Ici, c'est une photographie qui nous montre donc Ford et l'automobilisation de la Russie. Ford et l'autoftofikatsia en russe, donc un néologisme forgé sur un autre néologisme qui est électrifikatsia. Vous voyez Ford au milieu avec Braun, qui est le directeur, le président de l'AMTORG, et Mejlauk, qui est un des dirigeants du commerce extérieur, signé un accord par lequel Ford va transférer en Russie la capacité de produire des automobiles en très grand nombre, en particulier la possibilité de produire les automobiles Ford Model A dans l'usine de Nijni Novgorod et de construire des camions légers dans l'usine Amo de Moscou. Donc Ford, qui avait vu ses tracteurs copiés sans licence, hein, je le rappelle, il n'y avait pas d'accord de licence, avait ensuite envoyé un groupe d'ingénieurs en 26 qui avait visité les usines russes, qui avait donné des conseils aux Russes, et finalement, tout ceci aboutit à un accord en bonne et due forme par lequel Ford transfère une très forte capacité industrielle aux Russes. Avec Ford arrive son architecte. Son architecte, c'est Albert Kahn, basé à Detroit, qui est une figure fondamentale, pas simplement de l'architecture industrielle, mais de l'architecture moderne en général. Ford, Kahn, opérait à Detroit depuis le début du XXe siècle. C'était un architecte né en Allemagne. Son père était un rabbin allemand assez pauvre qui avait émigré. Et il crée, Kahn, formé comme architecte, crée une entreprise avec ses trois frères, Moritz, Louis et Julius, entreprise qui va rapidement devenir la principale agence de conception d'édifices industriels aux États-Unis. On pourra compter à la fin des années 30, vers 38, que Kahn produit alors à peu près 20% chaque année des grands projets industriels américains. Donc une entreprise extraordinairement développée et qui pourra être à juste titre présentée dans The Architectural Record en 1942, au moment de la mort de Kahn, qui est alors le plus riche des architectes américains, c'est celui qui paye le plus d'impôts sur le revenu. Kahn pourrait être présenté comme un producteur de chaînes de production. C'est donc quelque chose qui intéresse énormément les Russes, qui envoient une délégation dès 1928 avec lui, avant de passer en 29 et 30 de très importants contrats. Vous voyez à droite ce qui est très important dans le travail de Kahn. Malheureusement, le titre manque. Le titre de ce diagramme, c'est l'organisation Kahn. Et vous voyez encore plus que dans le diagramme publié par Oltarzewski en 1929, combien la logique de la division tayloriste du travail, la logique du travail sériel et de la simplification de la hiérarchisation des tâches est passée dans le système de la production architecturale. Donc Kahn travaille pour Ford, mais il fordise aussi la production architecturale. Kahn est notamment l'auteur de la plupart des grandes usines de Detroit, les usines de la General Motors, de Ford. Ici, l'usine légendaire de Highland Park, d'où va sortir la Ford Model T. Vous voyez ici la sortie de ces automobiles. Et comme on le sait depuis longtemps, comme cela a été rapporté de manière tout à fait exemplaire par Rainer Banham dans son livre « Une Atlantide de béton », eh bien Ford, Kahn, voit ses projets publiés et discutés par Walter Gropius dès 1913. Kahn, c'est l'architecte à partir duquel les modernes allemands commencent à imaginer d'autres types de bâtiments. Et notamment, ils le font à partir de ce qui est dénommé dans cette période, avant 1914, la Daylight Factory, l'usine à lumière naturelle, qui est une usine baignée de lumière, notamment par les toitures, ce qu'on ne voit pas très bien sur ces projets, et qui est le concept qu'il apportera en Russie. Kahn est aussi l'auteur de bâtiments importants à Detroit, le Fisher Building dans lequel ses bureaux sont situés, et le siège de la General Motors, qui est évidemment un édifice fort symbolique, dont le principe sera repris dans plusieurs projets européens. Au total, deux contrats, je l'ai dit, seront signés avec Kahn. Le premier en 1929 pour finalement déplacer vers la Russie, faire de Nijni Novgorod, cette ville située sur les bords de la Volga et qui s'appellera Gorki à partir de 1932, pour faire de Nijni Novgorod une sorte de nouveau Detroit ou de nouveau Dearborn. Le modèle de ce transfert, c'est l'usine gigantesque de River Rouge dans le Michigan, située à côté de Detroit. Vous la voyez ici dans cet extraordinaire diagramme des archives de Ford qui vous montre la production, le schéma de production par lequel un bloc d'acier devient une automobile en 28 heures en passant par tous les départements, de l'usine. Donc c'est un complexe industriel gigantesque qui a été immortalisé par les peintres et par les photographes. Voici une célèbre photo de Schiller qui nous montre les grandes bandes transbordeuses de minerais ou de charbon, la chaîne de montage à droite. L'usine Ford de River Rouge est à l'échelle d'une ville tout entière et elle va inspirer les Russes, non pas simplement en termes concrets, les amener à construire des usines d'automobiles du même ordre, mais elle va leur donner peut-être le canon de ce qui deviendra le combinat, la grande usine intégrée. Dans le premier contrat signé avec Ford avec Kahn en 1929, et avec Ford derrière lui, il s'agit de construire une usine d'automobile à Nijni Novgorod. L'usine et l'ensemble va s'appeler Avtostroy, la construction, lieu de construction des automobiles. Et vous voyez ici une axonométrie, enfin plutôt une vue aérienne, perspective aérienne de cet ensemble qui reprend l'organisation de River Rouge de façon assez précise. Voyez l'ensemble constitué d'Avtostroy constitué par l'usine et par la ville qui, elle, est dessinée par des architectes soviétiques choisis après concours. Le projet est mené extrêmement rondement par l'équipe de Kahn, qui envoie ses propres techniciens sur place. Il envoie notamment un ingénieur du nom de John Calder, qui avait travaillé à la construction de River Rouge et qui deviendra un héros de théâtre dans une pièce de Nikolai Pagodin intitulée Temp, le tempo. Donc, vous voyez, l'héroïsation d'ingénieurs américains se nourrit dans ce cas des opérations concrètes. Le projet est donc achevé et doublé par une ville nouvelle qui sera en définitive repensée, redéfinie par l'équipe des Allemands de Ernst May. La production de l'usine de Stalingrad qui est le deuxième projet lancé par Albert Kahn, est une autre opération. Elle est intéressante parce qu'elle passe par le transfert de matériaux de construction et de structures construites aux États-Unis. Donc cette usine qui est l'une des trois grandes usines de tracteurs qui vont transformer complètement la mécanisation de l'agriculture russe, cette usine est fabriquée ici, comme vous le voyez, dans un atelier new-yorkais. Les charpentes sont ensuite acheminées par bateau et par train, par charrette, jusqu'à Stalingrad, où l'usine est assemblée. Vous voyez ici les plans de la forge de cette usine. Donc, dans ce cas, il s'agit simplement de l'exportation d'un projet, de l'exportation, pourrait-on dire aujourd'hui clé en main, des équipements et des bâtiments. Les choses changent radicalement à partir de 1930 avec le deuxième accord qui est signé par Kahn. Ici, oui, une page d'un manuel d'architecture des bâtiments industriels qui est très éloquente. En 1936 encore, elle nous montre en haut l'usine une usine de Kahn à Chicago pour Ford et l'usine de Stalingrad. Donc, elles sont rapprochées et cette filiation est revendiquée dans la presse soviétique autour de 1928 et autour de 1936 et dans les manuels techniques comme étant une preuve de qualité et de responsabilité. Tout le monde ne célèbre pas l'architecture de Kahn, qui est une architecture qui est considérée par beaucoup comme étant simpliste et intéressante lorsqu'il s'agit des édifices, mais simpliste pour ce qui est des autres bâtiments. Kahn a construit dans sa carrière, Kahn et ses associés ont construit jusqu'à 1942 pratiquement 2000 bâtiments dans la région de Detroit, 2000, dont ceux de l'Université du Michigan, et construit dans tous les langages, ce qui amènera par exemple, un des correspondants de Le Corbusier, Oscar Stonoroff, qui est l'auteur du premier volume de l'œuvre complète de Le Corbusier, qui émigrait aux États-Unis. J'ai trouvé cette qualification que j'ai trouvée intéressante. Il écrit à Le Corbusier en 1932 et il dit que Kahn, dont Stonoroff dénonce les opérations en Russie, est un dieu ingénieur doublé d'un cochon architecte. Donc, dualité, mais c'est le dieu ingénieur, évidemment, que les Russes célèbrent. Ils ne lui donnent guère de commandes pour faire d'autres types de bâtiments. Donc, Stalingrad, c'est un bâtiment qui est directement exporté. Les choses vont changer avec la grande usine de tracteurs de Tcheliabinsk, située bien plus à l'est. Vous voyez à nouveau combien ces bâtiments s'apparentent à ceux de Detroit, mais le programme ici est différent. En 1930, Kahn se voit invité a signé un contrat par lequel il installe 25 de ses hommes, c'était tous des hommes à Moscou, ingénieurs, architectes, dessinateurs. Il invite 25 Russes à travailler à Detroit sur le plan de cette usine et il crée un bureau d'études. Il crée ainsi un bureau d'études qui va être directement placé sous la responsabilité des Américains jusqu'en 1932 et qui comptera jusqu'à 600 salariés à Moscou. 200 à Leningrad, 100 à Kharkov, avant et qui formera au total pratiquement 4000 techniciens russes. Tout ceci est assez significatif du point de vue des nombres. À Tcheliabinsk, on retrouvera Calder, on retrouvera des dizaines d'Américains sur le terrain. Les 25 architectes rassemblés dans ce bâtiment de Moscou, sur le Bolshoï-Tcherkassky Périoulok à Moscou, les 25 Américains et les 4000 Russes qui vont transiter chez eux, parce que le turnover sera extrêmement rapide, ce dont se plaindra Albert Kahn. En fait, très clairement, cette agence était une sorte de lieu de formation pour des ingénieurs qui allaient ensuite continuer ces projets ailleurs. Donc ces 4000 techniciens soviétiques et les 25 Américains qui les forment à ce qui est dénommé le système russo-américain vont dessiner plus de 500 usines ou ensembles industriels. 500 sur le millier qui est construit en gros pendant ce premier plan quinquennal. Donc c'est effectivement une énorme entreprise. Kahn, l'observant de près à partir de Detroit et considérant, je cite, que les Américains que les Russes ont une éducation supérieure et une meilleure connaissance théorique et que les Américains ont plus de sens pratique. Et donc, les Américains, si vous voulez, vont participer de ce transfert, notamment dans le cas de Tcheliabinsk, où il sera double à nouveau, puisque ici, vous voyez l'équipe. L'endroit où travaille l'équipe américaine à Moscou et l'équipe russe au travail à Detroit. Une autre image nous montre cette équipe au travail à Detroit, à gauche, et notamment parmi, au milieu de cette équipe, le futur directeur de l'usine de Tcheliabinsk, Gurevitch. À droite, une image que je vous ai déjà montrée, celle de Bourov qui vient faire un stage chez Albert Kahn en 1930 et qui a laissé les souvenirs les plus mordants, sans doute les plus injustes, critiquant l'architecture américaine et parce qu'elle nie à ses yeux l'urbanisme. Il écrit dans une lettre « L'architecture en dehors de ou sans l'urbanisme ne peut être appelée contemporaine ». On sait que ce terme veut dire moderne, peut être appelé moderne. Et c'est pourquoi le purisme de l'architecture contemporaine n'a rien de commun avec l'Amérique. Il est trop mince. On m'a raconté, écrit-il, qu'était sorti le film Le Roi du Jazz, dont l'idée est la suivante. On montre toutes les musiques de toutes les époques, de tous les peuples, et en conclusion, les absorbant toutes, les récupérant toutes, les dominant toutes, le jazz. L'Amérique, c'est le jazz. L'architecture américaine, c'est aussi le jazz. Mais les résultats sont moins bons qu'en musique. Bourov, donc, très critique vis-à-vis de l'architecture des édifices de Kahn, notamment ce que j'ai montré, le gratte-ciel Fischer et la General Motors, reconnaît la qualité technique de ces projets. et mettent en cause dans l'ensemble ces positions. Un autre passage de cette lettre de Bourhoff à sa femme de novembre 1930 à propos de Kahn, c'est étonnant. Il prétend à l'histoire, à l'éternité. Qu'il manque de goût, qu'il est prétentieux. Il m'a montré un projet d'école et il m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit que les deux principes de l'horizontale et de la verticale y étaient confondus. Réponse, je ne reconnais aucun principe, aucune théorie en architecture, je veux que cela soit beau. N'est-ce pas magnifique ? Une vraie bête à bon Dieu, écrit Bourhoff. Nous avons vu le Fisher Building qu'il a construit. Avant la visite, on m'avait dit que je verrais le meilleur building du monde, mais la chose la plus réussie, c'était les water closets. Là, Bourhoff reprend tout simplement l'ancienne d'Adolf Loos, pour qui ce qu'il y avait de plus admirable aux États-Unis, c'était la lunette de WC en chaîne. Donc, Bourhoff extrêmement critique, pendant que l'opération de Chelyabinsk s'achève, et vous voyez ici plusieurs vues de cette usine la nuit, qui ressemble fortement à ses sœurs, à ses grandes sœurs américaines. Dans la revue illustrée l'URSS en construction, magnifique revue publiée alors, vous trouvez de très grandes planches célébrant ces tracteurs que l'on voit à droite. Les tracteurs ici ne sont pas de Ford, mais de Caterpillar. Et ce même numéro de la revue L'URSS en construction donne la parole à Kalinin, qui est un des hauts dirigeants de l'État soviétique, et qui dit, dans son discours d'inauguration de l'usine, le rôle extraordinaire et qui souligne dans son intervention le rôle extraordinaire que le tracteur à chenille Caterpillar pourrait jouer dans le renforcement des défenses du pays. En effet, ce tracteur, qu'est-ce que c'est si ce n'est un tank sans canon ? Et cette affinité avait déjà été soulignée, avait déjà été discutée par d'autres dirigeants russes avant, par Frunze au milieu des années 20, qui imaginait la conversion massive des tracteurs en chars, et par Tukhachevski, le chef d'état-major de l'armée, qui sera plus tard fusillé par Staline et qui avait renchéri. En fait, cette usine de Chelyabinsk va être l'embryon d'une gigantesque entreprise industrielle. En 1941, l'usine Kirov, l'ancienne usine Poutilov, évacuée de Leningrad, l'usine de moteurs diesel de Kharkov la rejoignent, et sous la direction d'un général du nom de Moïse Zaltzman, naîtra un ensemble qui sera baptisé Tankograd. Le choix sera très judicieux, puisque les tanks russes qui étaient produits sur des châssis de tracteurs et dotés de moteurs diesel étaient beaucoup plus solides que les Allemands, qui avaient été conçus à la base dans des usines d'automobiles. Mais après cette réussite, il n'y aura pas de troisième contrat pour Kahn, qui échoue dans ses négociations. Les Russes traversent une crise aiguë en matière de commerce extérieur et de devises et se mettent à payer les techniciens américains en roubles, ce qui n'est pas très excitant et pas très utile. Et donc, ils quittent le pays. Kahn abandonne le pays, mais il avait dans son deuxième contrat, à l'initiative de Ford, accepté de céder ses brevets et tous ses procédés. Et donc, ce qui se passe, à partir de ce moment-là, c'est un processus d'assimilation, de transformation, d'acclimatation des processus et des modèles d'Albert Kahn. Vous en trouvez la trace dans les bâtiments industriels qui sont présentés dans les traités, dans les manuels. L'agence de Kahn, l'agence que Kahn avait créée à Moscou sous le nom de Gosstroy Project, va devenir le Promstroy Project, l'Institut de projet industriel, et va être le lieu où seront conçues la plupart des grandes usines russes pendant les décennies à venir. Lorsqu'on lit ces manuels de la fin des années 30, du milieu des années 30, on y voit encore, jusqu'en 36-37, la mention de Ford et les projets américains explicites, l'usine de River Rouge de Ford et Kahn, qui est présentée ici. Une autre page du même manuel où l'on voit les usines à Detroit à gauche et puis à droite la coupe typique de ces usines telle qu'elle a été appliquée à Stalingrad et Chelyabinsk et telle qu'elle va être ensuite appliquée dans de très nombreuses usines. Les Russes procèdent à ce que l'on appelle la priviaska, c'est-à-dire qu'ils adaptent, ils ajustent aux configurations locales des prototypes qui ont été élaborés par Kahn, et il prolonge ainsi les premiers projets de Kahn. Ici, c'est l'extension de l'usine d'automobile de Nijni Novgorod, devenue entre-temps Gorki, avec le même type de bâtiment, la capacité en est doublée, et cette fois-ci, ce sont les caves formées par Kahn qui réalisent l'opération. Enfin, un autre manuel à gauche en 1932 qui est une sorte d'instrument de socialisation de toutes les démarches de Kahn, à un moment où progressivement la référence à Kahn va disparaître du champ des publications et du champ du discours officiel. Dans un article de 1938 de la revue L'architecture de l'URSS, Kahn se voit reprocher de s'être paré des plumes du paon. L'article affirme sans frémir, il n'y a jamais eu aucun affilié de la firme d'Albert Kahn à Moscou. Les ingénieurs, les architectes et les travailleurs soviétiques inspirés par les idéaux héroïques du socialisme ont créé par eux-mêmes des usines qui dépassent les meilleures installations industrielles américaines et ont de ce fait nui au commerce de M. Kahn, pour qui l'architecture, c'est à 90% du business. Citation authentique. Et lors de la mort de Kahn en 1942, seul Viktor Viesnin, l'un des deux frères survivants, seul Viktor Viesnin enverra une lettre de Russie à la veuve de Kahn. En 1962 encore, le refoulement est total, alors que les usines n'ont cessé de tourner à plein depuis les années 30. Vous voyez à droite la page du premier manuel d'histoire de l'architecture soviétique depuis la Révolution, donc publié en 1962, et vous y voyez l'usine de Tcheliabinsk. Mais son auteur et l'auteur en est, selon ce livre, Fisienko, qui avait été un des jeunes stagiaires de l'atelier de Kahn, dont le nom a encore disparu de la chronique de l'architecture russe et ne réapparaîtra que dans les années 90. Merci.